dans l'actualité des idées aujourd'hui, les affinités entre musique et cerveau. Elles éveilleraient notre curiosité, favoriseraient l'attention et la mémorisation. Y a-t-il des fondements neuroscientifiques à tous ces présupposés? Invitée pour en parler, une spécialiste du cerveau musical, la québécoise Isabelle Peretz, auteure de « Apprendre la musique » chez Odile Jacob, une mise à la portée de tous des dernières avancées des neurosciences dans le domaine de la musique par sa titulaire de la chaire de recherche en neurocognition de la musique à l'Université de Montréal. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour. Merci Isabelle Peretz d'être avec nous. On commence par un exemple. Vous racontez que si on demande à des étudiants de dire ce qui leur procure le plus de plaisir dans la vie, ils vous diront le sexe et le soleil, et en troisième position, la musique, bien avant la nourriture et le sommeil. Est-ce à dire que la musique peut faire l'effet d'une drogue?
Oui, sûrement. Par chance, on ne connaît pas d'accro de la musique au point de ne plus se nourrir, alors qu'on en connaît pour d'autres abus. Donc, oui, c'est sûrement. Il y a beaucoup d'effets qui semblent s'apparenter au fait que la musique peut procurer un plaisir suffisamment important pour qu'on ait envie de le répéter, oui. Et puis ça met en jeu des circuits dans le cerveau qui sont liés au plaisir, à la récompense et qui sont aussi mobilisés par les drogues et le sexe d'ailleurs.
Des plaisirs donc dédoublés, quadruplés en tout cas, on imagine juste à travers cet exemple l'importance que la musique peut avoir dans nos vies et l'effet qu'elle peut avoir sur nos corps et sur notre cerveau. Alors, il y a 10 ans déjà, vous donniez une série de conférences au Collège de France sur ce sujet, neurosciences de la mélodie et du rythme, émotions musicales et le cerveau du musicien. C'était à la demande de Stanislas Dehaene, qui détient la chaire de psychologie cognitive expérimentale au Collège de France et qui est président depuis le mois de janvier, depuis le début de l'année, du Conseil scientifique de l'éducation nationale à la demande de Jean-Michel Blanquer. Vous qui venez d'ailleurs, peut-être est-ce que vous allez pouvoir nous expliquer l'actuel engouement français pour les neurosciences. C'est une reconnaissance assez nouvelle, mais quand même somme toute tardive. Vous comprenez pourquoi aujourd'hui, en France, on s'attache autant à comprendre et à inclure les neurosciences dans nos facultés de compréhension, notamment de l'éducation?
C'est vrai ça, au fond, j'y pense pas en ces termes-là. C'est vrai que en psychologie, en tout cas, qui est ma discipline de formation, l'Amérique est beaucoup plus biologisante que la France. Et donc, très tardivement, finalement, la France a raccroché les wagons pour se dire, bon, ben, peut-être que il serait temps de se pencher un peu plus sur les neurosciences. Ça veut pas dire qu'elles étaient pas là en France. Mais que maintenant, peut-être, il y a une plus grande reconnaissance qui met en péril tout un courant, d'ailleurs, je pense, qui se manifeste chez vous, des psychanalystes qui n'ont jamais eu droit de parole au Canada, par exemple.
On parlait de la musique comme d'une drogue. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'overdose de neurosciences à l'avenir, et notamment concernant la musique? Est-ce que ça ne vous semble pas risqué, par certains côtés, de trop biologiser cette question-là?
Ah, c'est amusant ça. Non, pas du tout. Je veux dire, je vois aucun excès possible dans la mesure où c'est balisé par la science. C'est un peu ça que j'ai voulu aussi livrer dans le livre, c'est bien départager ce qui est du mythe et de la réalité. Alors c'est sûr que c'est toujours un terrain glissant quand on va parler de plaisir, cerveau et dopamine, mais quand on comprend quelle est l'origine scientifique derrière de tels effets, je pense que c'est notre rôle en tant que scientifique de mettre en garde par rapport à des abus comme vous en avez eu. Moi je prends toujours l'exemple qui m'avait tellement révolté de Tomatis. Qui, vous êtes trop jeune pour l'avoir connu, mais ici, il ouvrait en France, c'est un médecin, neurologue, je crois, qui vendait de la musique filtrée pour guérir tous les maux. Les gens payaient des fortunes. Et tout ça parce que comme il avait la blouse blanche, il avait donc le savoir. Donc c'est un peu le péril toujours qu'on a de biologiser. Mais heureusement, nous avons la science
qui est l'expérimentation. Ce qu'on appelait la musicothérapie, ça aussi, vous dites que c'est totalement...
Ah non, ça j'ai pas du tout.
Alors je vous pose la question.
Non, d'accord. Non. La musicothérapie est effectivement utilisée ici comme au Canada comme ailleurs. Maintenant... La musicothérapie, elle a avantage aussi à être un peu plus solidifiée ou validée objectivement. Donc, je pense que l'apport que je peux faire par un livre comme celui-là et par en tant que scientifique en vulgarisant, c'est d'effectivement donner les arguments qui sont En faveur ou en défaveur, dans le sens, est-ce que c'est prouvé ou pas prouvé scientifiquement? Ça ne veut pas dire que ça va être permanent, je veux dire, la science, ça progresse.
Donc en tout cas, dans votre démarche, vous avez cherché l'équilibre entre votre formation originale, c'est-à-dire psychanalyse ou psychologie?
Ah non, psychologie expérimentale.
Psychologie expérimentale.
Comme Stanislas Dehaene, la même formation.
Et la neurobiologie, c'est-à-dire aussi comprendre la musique dans tous les effets qu'elle peut avoir aujourd'hui sur le cerveau et la condition humaine. Votre objectif dans ce livre, Apprendre la musique nouvelle des neurosciences, vous l'exposez, envisager les bases innées de la musicalité en couvrant la période critique, les différences individuelles, l'hérédité, l'oreille absolue, le prodige et son inverse, la musique. Vous discutez aussi des fondements de l'apprentissage de la musique dans cet ouvrage et en tirez quelques enseignements sur l'éducation musicale. On va peut-être commencer avec une première idée reçue en la matière, la principale étant peut-être « je ne nais pas musical, je le deviens ». La musique est un acquis cérébral, c'est ce qu'il faut comprendre, Isabelle Peretz.
Certainement. Je veux dire, certainement, ça prend effectivement 10 000 heures de travail assidu pour devenir un musicien professionnel. Donc, si vous calculez, c'est 10 ans au moins de formation musicale pour arriver à un niveau d'expert. Donc, oui, c'est un acquis, mais il y a des prédispositions. C'est-à-dire que ce qu'on ignore souvent, c'est que le bébé naît avec un cerveau équipé pour répondre à la musique. Et de manière assez sophistiquée, les dernières recherches sont absolument saisissantes à ce niveau-là, qui montrent que le cerveau du bébé, en particulier le cortex auditif droit, bébé nouveau-né, là, qui sort tout juste, donc il y a entre un jour et trois jours, ils sont emmaillotés, mis dans un scanner en résonance magnétique, et on observe qu'ils vont répondre à une sorte de violation, de déviation de la structure musicale qui est tout de même saisissante quand on pense à la subtilité.
Vous pouvez préciser cette expérience-là?
Oui.
Vous pouvez la préciser, oui.
Oui. Donc, ils ont présenté au bébé endormi des morceaux issus du répertoire classique, mais évidemment synthétisés. Puis, ils vont insérer des déviations, ce qu'on fait souvent dans les études d'adultes.
Ça veut dire quoi?
Alors les déviations, c'est par exemple, on va créer une dissonance. On va rendre tous les accords, si vous voulez, dissonants. Donc pour un non-musicien, désagréable, et pour un musicien, ça veut dire qu'on introduit beaucoup d'intervalles d'un demi-ton. C'est une violation importante, mais il y en a eu d'autres qui étaient plus subtiles, où on change le mode, on change la tonalité. Quand vous écoutez, ça vous semble étrange en tant qu'adulte, mais que le bébé le trouve étrange aussi, indirectement bien sûr, c'est pas conscient, c'est spectaculaire. Et puis il n'y a pas rien que tout ce qui est à voir avec les règles de la musique tonale, il y a aussi la pulsation. On a montré aussi que le bébé, en naissant, va être sensible si il y a une absence de son sur un temps fort ou faible. Donc il est déjà tout petit, il est capable d'extraire une régularité dans une séquence, ce qui est tout à fait remarquable.
Et vous le voyez à quoi pour finir l'expérience? Comment ça se manifeste de votre
ça se manifeste, c'est-à-dire qu'on enregistre, là l'enregistrement est objectif dans le sens où on enregistre les réponses cérébrales à des différences. Maintenant, c'est suivant l'astuce de l'expérimentateur, il n'y a pas 36 façons de l'interpréter. Ça veut dire qu'effectivement, le bébé a dû extraire ces règles-là. Alors, comment il a extrait ces règles-là? Mais ça nous amène à penser que le cerveau est effectivement équipé pour les extraire, c'est-à-dire de hiérarchiser les informations qu'il entend.
Donc, il y a une part d'acquis et donc, il y a aussi un bagage génétique qui peut s'expliquer par le fait que notre cerveau est précablé, quelque part, pour comprendre la musique. On y serait tous prédisposés, mais avec plus ou moins d'avantages ou d'atouts, de facilité à la naissance. Vous écrivez aussi que l'activité musicale modèle le cerveau. Et ça, c'est toute la recherche autour de la neuroplasticité. Est-ce qu'on peut expliquer comment?
Comment? C'est très difficile. Les mécanismes de neuroplasticité chez l'humain ne peuvent pas être étudiés in vivo, évidemment. Et donc, c'est beaucoup la recherche animale. Il y a énormément de travaux, par contre, sur la neuroplasticité. Puis, chez l'humain, c'est surtout au niveau macroscopique qu'on va le constater, pas au niveau moléculaire de qu'est-ce qui se passe exactement entre deux neurones. C'est une affaire de réseaux relativement étendus et de fibres qui rejoignent des régions distantes. Donc, il y a plus de fibres, plus d'axones, plus de connexions, si vous voulez, entre les neurones et entre les régions cérébrales du cerveau musical, du cerveau du musicien, en fait.
On se souvient, par exemple, dans le domaine quand même de recherche d'un pionnier du genre, qui est Hervé Platel, qui lui avait placé, dès les années 90, notre cerveau sous imagerie par résonance magnétique, cerveau avec diffusion de musique au même moment, pour voir l'impact que ça pourrait avoir. Et il avait cette très jolie formule qui disait qu'écouter une œuvre crée une véritable symphonie neuronale. La formule montrant bien comment l'écoute de la musique ou d'une œuvre peut engager la totalité, voire la globalité de notre cerveau et réveiller à peu près toutes les zones actives de cette partie-là de notre corps.
Tout à fait, et je reviens d'ailleurs à l'astuce de l'expérimentateur d'arriver à isoler la composante qui va être critique. Donc oui, dans l'ensemble, effectivement, la musique va activer l'ensemble du cerveau.
Un cerveau de musicien, qu'est-ce qu'il a de plus ou de moins ?
Qu'est-ce qu'il a plus ? Il a sans doute, il a des réponses beaucoup plus synchrones, beaucoup plus ciblées. On parle du cerveau là, hein. Je parle pas au niveau de l'expertise musicale, bien sûr. Et il a une meilleure connectivité, donc beaucoup plus rapide dans des régions spécialisées, si vous voulez. Maintenant, au niveau fonctionnel, je pense pas qu'il ait un module de plus. Il a juste toute cette expertise qui lui permet évidemment d'avoir des processus, si vous voulez, descendants, qui lui permet d'entendre d'autres dimensions. Alors, supplémentaire, je dirais.
Ouais, tout ce que vous dites aussi, Isabelle Peretz, nous fait dire qu'il faudrait très tôt mettre nos enfants à la musique, avant l'âge d'un an, mais surtout, alors à 6 ans, les placer devant un instrument, quel qu'il soit, parce qu'on a tous envie que nos enfants soient plus intelligents que les autres, ou que la moyenne, peut-être.
Que nous, déjà.
Mais que nous, pour commencer, qui n'avons pas étudié la musique. Et cet effet Mozart, comme on dit, vous nous racontez qu'il n'est pas si vérifié que cela, mais ce qui est sûr, c'est que quand même l'apprentissage de la musique est un plus dans le parcours, dans la construction, le développement d'un enfant.
Oui, en fait, il faut faire la distinction dans l'effet Mozart, c'est un effet passif, dans le sens où on écoute de la musique. Et j'aimerais bien souligner le fait que toute la recherche maintenant actuelle montre qu'il ne suffit pas d'écouter la musique, il faut en faire. Donc, il y a des études astucieuses aussi qui montrent que un adulte qui n'a jamais fait de musique, naïf, on le met devant un clavier, il apprend une séquence d'arpèges. Et vous mettez quelqu'un d'autre, en même temps, un autre sujet d'expérimentation qui est observateur. Et cet observateur doit suivre les progrès, donc le juger, l'évaluer s'il a bien fait, etc. Donc tous les deux font vraiment attention, apprennent en même temps. Sauf que celui qui va gagner, entre guillemets, dont le cerveau va répondre de façon beaucoup plus ciblée, beaucoup plus importante et synchrone, c'est celui qui en a fait, plutôt que celui qui a observé. Et ça, c'est très général. Ça a été reproduit chez l'enfant, comme vous disiez, c'est effectivement la période la plus importante, c'est avant l'âge de 7 ans, d'apprendre la musique. Et celui qui va en faire va avoir des bénéfices intellectuels et sociaux.
Mais bonne nouvelle, Antoine, l'apprentissage de la musique aide aussi à vieillir mieux. Il n'y a pas d'âge pour apprendre la musique. Vous dites que cet apprentissage a un effet protecteur sur le cerveau, que le déclin lié à l'âge fait moins de ravages chez le musicien. Il n'est jamais trop tard. Antoine, je ne vous entends plus rien dire.
Oui, bah, il m'écoute.
Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je ne vois pas que je sois particulièrement. Hein. Donc on peut s'y mettre.
Je suis autant visé.
À n'importe quel âge.
Il n'est jamais trop tard.
Il n'est jamais trop tard. Je veux dire, il ne faut pas avoir les mêmes attentes qu'on attendrait d'un enfant de 7 ans, qui va apprendre 10 fois plus vite et mieux. Mais les bénéfices ont été notés. D'abord,
ça souligne cet aspect aussi thérapeutique que vous évoquiez l'un et l'autre tout à l'heure, puisque vous nous dites qu'un cerveau plus entraîné, ça permet quand même de faire reculer certains signes de dégénérescence du cerveau. C'est quand même une gymnastique pour le cerveau.
Eh bien
qui est
non,
importante.
C'est pas tout à fait ça.
Ah.
La réserve cognitive dont on parle, c'est effectivement les gens qui ont plus étudié, qui ont fait la musique, qui vont manifester des signes de détérioration liés à l'âge ou en tout cas aux démences beaucoup plus tardivement. Ils gagnent 10 ans. Ce qu'on a montré, par exemple, un musicien va avoir l'acuité de décoder la parole dans le bruit de quelqu'un de 50 ans s'il en a 70. Donc c'est 20 ans, c'est beaucoup. Mais si vous en apprenez la musique d'ailleurs tard, vous n'en avez jamais fait, effectivement, vous allez entendre aussi peut-être. Et c'est pas parce que les neurones sont restitués, c'est ça que je voulais dire en fait. C'est pas parce que vous avez les neurones de l'oreille ont été reconstruits. Non, non. C'est le fait que vous êtes capable de porter mieux attention à la musique. Et si vous l'apprenez à la musique ou au son, ça peut être le langage. Et si vous l'apprenez à 70 ans, ben ça vous donne un petit boost d'attention, de mémoire, d'apprendre à apprendre.
Il n'y a pas que des neurones dans l'oreille aussi, parce que les exercices intellectuels en général, c'est vrai pour tout ce qui est pratique oui. Qui permet d'empêcher précisément, je sais pas, comme on peut dire, l'endormissement, l'accélération du vieillissement.
C'est une réserve, oui, c'est ça.
Et à propos d'oreille, vous dites aussi que l'oreille absolue ne caractérise pas les musiciens de talent. C'est vrai qu'on a très tôt tendance à dissuader certains de pratiquer un instrument de manière active et répétée en classant ceux qui auraient l'oreille absolue, c'est-à-dire une toute petite minorité de personnes sur cette terre par rapport à tous ceux qui peuvent aujourd'hui pratiquer la musique. Ce n'est pas un fondamental d'avoir l'oreille absolue pour bénéficier des vertus de la musique sur le cerveau.
C'est amusant, hein. Je vais vous faire un commentaire. Bon, ça fait 3-4 jours que je fais des interviews et tous les Français reviennent sur l'oreille absolue. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont avec l'oreille absolue?
Bah, vous aussi, en même temps.
Moi, je l'ai abordé parce que, pour défaire le mythe. Mais c'est vrai que ça fascine plus les Français, je vous dirais. Que
les Québécois ou les Canadiens.
Ah oui, oui, clairement. Il doit y avoir quelque chose là. Mais disons qu'en général, oui, je voulais aborder cette question parce que ça a été considéré pendant longtemps comme la preuve d'un don. Et ça n'en est pas un. C'est une forme de synesthésie, en fait, d'association bébête entre une hauteur et un nom de note.
Sur quoi repose la compréhension d'une œuvre cas pratique ? La compréhension d'une œuvre, les explications du neurobiologiste Jean-Pierre Changeux qu'on recevait ici autour de cette grande table. Il est l'auteur avec Pierre Boulez des Neurones enchantés. Il va nous expliquer sur cette œuvre, réponse du compositeur de musique contemporaine, comment la comprendre, cette œuvre qui a été assez mal perçue au moment de sa diffusion.
Il y a dans l'ensemble une éducation, l'éducation à la musique, et je dirais même une éducation à l'œuvre de Pierre Boulez. C'est-à-dire que pour vraiment bien comprendre et pondre, il faut connaître les œuvres qui ont précédé, et peut-être aussi s'intéresser à celles qui ont suivi, pour mettre en quelque sorte cette musique en contexte. La notion de contexte est absolument indispensable. Mais si vous voulez, c'est un langage nouveau qu'il faut apprendre, et ce langage ne s'apprend pas facilement et instantanément. Prenez le cas du l'apprentissage d'une langue nouvelle. Hein, si on a à apprendre le chinois, je veux dire que il faudrait pas mal de mois et d'années pour arriver à le comprendre. Et l'intérêt de cette musique, c'est quand même qu'il y a eu des précurseurs, et il y a eu Boulez lui-même au cours de son œuvre, et que l'auditeur a acquis progressivement une capacité d'écoute, et je dirais, j'aime beaucoup le terme compréhension, qui lui permet d'apprécier ce que le compositeur veut nous faire entendre.
Sur cette œuvre incomprise de Pierre Boulez, Isabelle Peretz, comment l'expliquer? Est-ce que c'est parfois quand on ne comprend pas la musique parce que nous ne sommes pas assez intelligents?
C'est une question difficile en fait. Hein. C'est sûr que Boulez, c'est une forme d'art, donc il explore les limites de qu'est-ce que le système peut comprendre. Nous, en tant que scientifiques, on essaye juste de dégager quelles sont les règles qui pourraient être universelles et s'appliquer à toutes les musiques, y compris celles de Boulez. Mais on va pas se concentrer sur la musique de Boulez. Je suis pas musicologue non plus. Hein. Donc, d'abord, je ne connais pas d'études vraiment scientifiques de la musique de Boulez pour savoir si elle est bien assimilée par les auditeurs suivant qu'ils connaissent d'autres œuvres de Boulez, comme le dit Jean-Pierre Changeux, et je pense qu'il a raison. Il faut effectivement se familiariser avec ce type de musique pour pouvoir l'apprécier, pour comprendre son langage. Mais disons que c'est pas la première forme de musique que moi je vais étudier en tant que scientifique. Bien sûr, je vais étudier la musique tonale dans le sens occidental, qui est partout, omniprésente, quelle que soit la culture et qui. Et on se demande, mais bon, qu'est-ce qu'il y a dans cette musique-là qui fait que c'est si assimilable ? Alors, il y a de plus en plus de recherches, surtout par des scientifiques avec une formation de psychologue expérimentaliste, qui vont comparer des systèmes différents qui ont été isolés dans, par exemple en Afrique, dans des tribus relativement isolées qui n'avaient pas d'électricité, où on peut effectivement comparer les différentes musiques et voir qu'est-ce qui est naturel et qu'est-ce qui l'est moins.
Et vous travaillez autant, pardon, sur la réception, sur le récepteur que sur l'émetteur, c'est-à-dire sur la réception de la musique que sur la créativité musicale.
Non, je ne travaille pas vraiment sur la créativité musicale. Ça, c'est vraiment une autre frontière difficile. Ça dépend un peu ce que vous allez appeler créativité. Je travaille plutôt sur les mécanismes de perception et de production de monsieur et madame tout le monde. Ils peuvent être musiciens, bien sûr. Je m'intéresse pour l'instant aux prodiges musicaux. Mais mon intérêt n'est pas du tout d'expliquer le type de musique comme Boulez.
Une question d'Antoine Mercier.
Oui, quand même, on va rester sur cette frontière parce que c'est très intéressant de voir jusqu'à quel point vous allez pouvoir décrypter l'art finalement et nous donner la recette qui permettrait de fabriquer des œuvres d'art. Bon, évidemment,
vous connaissez la réponse.
Je caricature un petit peu. Pas vraiment, parce que cette frontière, pourquoi s'arrêterait-elle à un moment donné, puisqu'on arrive à
Elle s'arrêtera pas, mais ça ne veut pas dire que cette musique va rester.
Non, ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait trouver, apprécier, aborder l'art en général sur des critères scientifiques, sur des critères des neurosciences. Est-ce que, à partir de là, il n'y a pas une confrontation, j'allais dire idéologique, entre deux façons de percevoir une réalité ?
Oui, bien sûr. Voilà.
Et que donc là, c'est
bien sûr
un enjeu pour l'avenir aussi.
Bien sûr. Et puis moi, j'avancerai que si la musique est tellement artificiel, dans le sens, vous savez qu'on crée de la musique électroniquement, et donc c'est plus du tout limité par qu'est-ce qui est apprenable, qu'est-ce qui se retient, qu'est-ce qui est naturel. Eh bien celle-là, elle passera pas, elle sera éphémère, c'est sûr. Parce que le cerveau n'est pas équipé pour organiser cette structure-là. Mais qui suis-je à ce stade-ci pour dire quelle musique va être éphémère ou non ? On le sait pas.
Est-ce qu'on peut parler de la musique congénitale, c'est-à-dire de cette petite portion de la population qui n'éprouve absolument rien en écoutant de la musique, ou en tout cas qui a énormément de difficultés à l'apprendre ? Qu'est-ce qui coince dans notre cerveau dans ces moments-là, dans cette forme de dyslexie en fait musicale ? Est-ce qu'on peut, vous êtes parvenu comme scientifique à expliquer cela ?
Oui, ça c'est vraiment mon champ d'expertise. J'ai travaillé pendant 20 ans sur ce que nous avons appelé la musique congénitale. Donc c'est ces personnes, ça correspond à 2,5% de la population, environ, ou 3%, qui sont nés avec une difficulté à apprendre la musique. Elle a plusieurs formes. La forme qu'on connaît le mieux, je suis pas la seule, heureusement maintenant, à l'avoir étudiée, c'est la forme qui va affecter surtout les variations mélodiques. Et donc, pour eux, la majorité aussi, la musique ressemble, n'a pas beaucoup de sens, dans le sens où ils vont pas y répondre, ils vont être assez indifférents à la musique. Alors, grâce à l'étude de ces personnes-là, j'ai fait comme en médecine, c'est-à-dire on fait de reverse engineering. Donc, on va du comportement, on va au cerveau, on a trouvé des anomalies au niveau du cerveau, et ça c'était bien important de le mettre en évidence, c'est-à-dire que c'est tout un circuit du cortex auditif droit au cortex inférieur, frontal inférieur droit, qui serait appauvri dans le cas de la musique. Bien sûr, ça se voit pas à l'œil nu, hein. Il faut prendre des méthodes très raffinées pour les mettre en évidence. Et en plus, c'est héréditaire. Et donc, on est en train de mieux comprendre quels seraient les circuits les plus importants pour développer des capacités normales, puisque c'est un peu comme en médecine, je disais, on étudie la pathologie pour mieux comprendre le cerveau normal. Alors, pathologie, ça peut faire sauter, grincer, mais je vois vraiment les choses comme un continuum, une courbe normale, où il serait un extrême de ceux qui n'en sont pas pourvus. Ouais.
Et alors, il y a les amusiques qui, est une petite minorité qui trouve vraiment la musique insupportable, oui, et qui s'interroge sur le plaisir que les autres peuvent, absolument, bien trouver, éprouver en écoutant de la musique. Et puis, il y a les anédoniques, est-ce qu'on dit comme ça ?
Oui, hein, et ce sont ceux... Enfin, il y a ceux qui ont vraiment un problème de perception, mais il y en a...
Ceux qui n'aiment tout simplement, oui, pas la musique.
Oui, et, ouais, qui se sont efforcés de comprendre, ils sont rentrés dans des chorales, ont appris à jouer un instrument, et puis non, il n'y a rien qui passe.
Et on apprend que Freud était lui-même à musique.
Oui. Bah, il n'est pas le seul, hein. Che Guevara aussi.
Qu'est-ce que vous en concluez ?
Qu'est-ce que j'en conclue ? Ben rien.
Il y a un rapport entre Freud et la musique.
Je veux dire, ce que j'en conclue, c'est que la musique, c'est pas parce qu'on est à musique qu'on a une déficience générale.
Qu'on est psychanalyste.
Oui, on est psychanalyste d'ailleurs.
Invité de cette deuxième et dernière partie de la Grande Table du vendredi, Isabelle Peretz pour Apprendre la musique, nouvelle des neurosciences qui paraît chez Odile Jacob.
France Culture. La Grande Table. Olivia Jesbert.
À 13h23 sur France Culture, on ouvre la dernière page de cette émission. On recevait hier le contre-ténor Philippe Jaroussky. Il sera Orphée prochainement sur la scène du Théâtre des Champs-Élysées dans une nouvelle version de l'opéra de Gluck. Alors la musique nous fait-elle nous sentir mieux et nous rend-elle meilleure ? Réponse d'un expert musicien, chanteur lyrique en la matière.
Il silenzio passe già dalla porrida reggia, vengorrei sfortunato in compagnia del duolo ai sacerdori mio.
Il y a des gens qui sont extrêmement réceptifs à la musique. Et ça, c'est... pour moi, c'est assez mystérieux, même, on dirait. Enfin, moi, je sais que j'ai développé quelque chose de plus professionnel. Donc, quand j'écoute de la musique, je suis dans quelque chose de peut-être plus analytique et moins épidermique. Mais il y a des gens qui voyagent très loin à travers la musique. On peut parler de toutes les musiques, évidemment. Et qui sont touchés en plein cœur. D'ailleurs, ça peut même des fois par de la musique contemporaine. Moi, j'ai créé d'ailleurs une académie cette année où on fait commencer de la musique à des enfants. Certains enfants sont parfois un petit peu en difficulté. On a souligné notamment au niveau comportemental des changements depuis qu'ils étudient un instrument. Donc c'est vrai que la musique peut faire énormément de bien. Elle permet aussi de s'échapper du réel aussi. Et je pense que quand notamment on est très malade, la musique peut être un moyen d'échapper à une réalité qui est parfois un petit peu difficile. Il faut savoir que dans la musique classique aussi, je trouve, on approche le génie aussi d'un compositeur. Et ce génie, il vous fait du bien. Parce que le génie, il vous apporte quelque chose d'universel. Difficile à expliquer, mais quand vous entendez des fois certains morceaux de Mozart, de Beethoven ou de Schubert notamment, vous touchez à une forme d'universalité de l'être, ça vous rend meilleur. Moi j'ai dit souvent, j'ai l'impression que la musique m'a rendu meilleur en tant qu'être humain aussi. On est quand même dans une société où on recherche, on parle souvent d'une efficacité, on demande aux étudiants beaucoup maintenant d'être efficaces. Je trouve qu'on a parfois tendance peut-être à privilégier certaines capacités intellectuelles, notamment du côté mathématique ou du côté organisation, tout ça. Et on oublie que l'intelligence du cerveau, c'est aussi une intelligence créatrice, une intelligence émotionnelle. Le cerveau est très plastique et justement, il y a des ponts C'est pas d'ailleurs un hasard, je pense qu'il y a énormément de savants, de mathématiciens qui sont de grands mélomanes. C'est peut-être pour justement se compléter et s'enrichir.
Et on vous a vu, Isabelle Peretz, à l'écoute de la voix de Philippe Jarouski, vous lever dans votre fauteuil, comme quoi, oui, la musique peut faire du bien. C'est pas vous qui direz le contraire aujourd'hui.
Et sûrement pas avec sa voix. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est extraordinaire.
Ce qu'il nous dit aussi, Philippe Jarouski, c'est que nous ne sommes pas tous égaux. En tout cas, tous nos cerveaux ne sont pas égaux devant la musique. Pas simplement, cette discrimination n'est pas simplement biologique ou innée, elle est aussi sociale. C'est-à-dire comment faire en sorte que tout le monde ait accès à cette formation, à cette capacité de développer aussi son cerveau, son attention, ses facultés de mémorisation en ayant accès à la musique.
Il y a un aspect de ce qu'il dit, sur lequel j'aimerais revenir, qui dit que ça fait de nous des personnes meilleures. C'est intéressant ça, parce qu'en fait, très récemment, il y a des recherches qui ont bien montré que le fait de faire de la musique ensemble, ce qu'il fait évidemment, hein, puisqu'il est accompagné, même s'il est souvent soliste, c'est ça rend la personne plus altruiste. Et donc, que ce soit le tout petit, s'il est bercé en même temps qu'un expérimentateur, c'est-à-dire de façon synchrone, il va aller chercher un objet, le lui rendre plus volontiers que s'il a été bercé de façon asynchrone, où il va partir avec les objets et pas les donner du tout. Donc il a déjà tout petit à 2 ans cette différence s'il a été s'il a bougé en rythme avec la personne. Et chez l'adulte, par exemple, on a montré, c'est aussi des études toutes simples. Il suffit d'avoir 2 casques comme vous, je vous demande de chanter ensemble. Et parfois, non, vous le ferez pas,
non,
mais
pas
vous pourrez faire l'exercice. Et puis, je fais un petit décalage. Eh bien, vous allez collaborer beaucoup moins bien par la suite si j'ai introduit ce petit décalage entre vos 2 écouteurs que s'ils étaient synchrones. Là, vous allez vous aider.
Et vous l'écrivez, la musique est un instrument de ralliement social.
Hein. C'est démontré maintenant vraiment scientifiquement, et ça c'est les données qui sont les plus plaisantes et importantes en fait.
Et la voix, parce qu'on n'a pas parlé de la voix spécifiquement, c'est très différent de la musique.
En général, oui, en fait, on est beaucoup plus généreux avec la voix. Par exemple, pour les, j'en parle un tout petit peu dans le livre aussi. C'est des études que nous avons utilisées parce qu'on a comparé les jugements qu'on pouvait avoir sur la justesse, par exemple, de la voix, des mêmes intervalles chantés avec la voix ou au violon, donc aussi continu. Et on pardonne un demi-ton d'erreur dans la voix, mais pas à l'instrument de musique. S'il y a un tout petit quart de ton qui dévie, on fait des sauts. Qu'on soit musicien ou non, hein, c'est pas une question d'expertise musicale. Donc on est beaucoup plus généreux par rapport à la voix. Mais pour revenir au social, parce que je pense que c'est vraiment un volet important de la recherche, le fait de chanter ensemble, c'est vraiment crucial, c'est cet aspect de synchroniser et qu'il faudrait favoriser. Apparemment, vous aurez des chorales maintenant dans les écoles.
Et à la radio, on en a déjà une. Il y a le chœur de Radio France.
Mais ben voilà. Culture, mais on peut en créer une.
Voilà, une initiative est lancée par Antoine Mercier en ce vendredi. Merci 1000 fois à vous, Isabelle Peretz. Apprendre la musique nouvelle des neurosciences, votre essai, les avancées de la recherche, mais aussi retour sur quelques idées reçues en la matière, vient de paraître chez Odile Jacob. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table qui, de concert, a préparé et programmé cette émission tout au long de la semaine, à Claire Maillot et Clémence Marie, à Coppelia Ménardi et Maxime Morin, avec l'aide très précieuse de Émile Boutelier et de Liana Valken. À la réalisation aujourd'hui, Perry Legras avec Yanis Djoudad. Vous pouvez retrouver toutes les informations en lien avec l'émission, mais aussi podcaster La Grande Table à partir de franceculture.fr. Très bel après-midi à tous.